Georges Baume. Le tonneau. Ce soir d'été, la lueur du soleil par-dessus la Cévenne bleue dorait encore, dans le vallon de Ganges, les vieilles maisons joyeuses comme des cages d'oiseaux. Au bord de l'Hérault, les filatures massives menaient leur bruit de roues et de machines, et par leurs fenêtres ouvertes, on voyait aller et venir les ouvrières brunes parmi les cylindres rapides emportant les fils de soie jaune, bleu ou rose. Les bons Cévenols s'ennuyaient, selon la coutume, depuis le matin, sur la place de la petite ville. Les mains aux poches, fumant la pipe, ils gardaient, disait-on, la boule d'or que porte très haut, dans la feuillée de platane, une colonne de pierre. Cependant, leurs sœurs ou leurs épouses, chacune devant sa porte, confectionnaient sur le métier, pour gagner la vie commune, des tricots et des bas. Mais elles étaient lasses de nourrir leurs hommes. Une rumeur d'indignation courait ce soir par les ruelles. On remarquait, parmi ces maîtres sans ambition, quatre fainéants incurables, Pascal, Jean-Pierre, Sylvain et Éloi, qui, plus hautains que des Suisses de cathédrale, n'allaient même pas au cellier tirer le vin blanc de la sérane les jours de fête. Gangeois de race, nerveux, moustachus et descendants des Gaulois avaient un air de famille. On les distinguait très bien, néanmoins, Pascal à ses cheveux bouclés, Sylvain à ses épaules de colosse, Jean-Pierre le batailleur au balafre de ses joues, Éloi à ses pattes d'ours et à son menton en galoche. « Est-ce qu'ils ne sont pas fatigués de garder la boule ?» gronda une ouvrière qui se lavait les mains dans le courant du ruisseau. « Qu'ils aillent donc dépirer la sérane pour se dégourdir. »« Oh, que ces femmes sont querelleuses ! Voilà que nous n'avons plus de quoi fumer !» « Ah, que vous seriez bien nourris et bien habillés si vous occupiez vos bras seulement 3 ou 4 heures par jour !» Les hommes se regardèrent, émus par des rêves d'abondance. Ils avaient honte tout de même depuis quelques mois à cause de leur dénuement. Enfin, Éloi remua son menton crochu et dit « J'ai une idée, savez-vous, nous pourrions, en la réalisant, rassembler quelques bénéfices qui nous permettraient à tous les quatre d'entreprendre un commerce. » « Ouais, raconte-nous ça. Après-demain, il y a fête à Saint-Bosile-du-Putois. Nous apporterions à ces paysans une demi-pièce de notre vin de la sérane. Puis, durant la belle saison, nous visiterions tous les villages. En hiver, nous pousserions en voiture jusqu'à Montpellier, jusqu'à Sète. Tais, on n'y avait pas songé. On nous donnera une patente et nous serons des notables. » Ils se félicitèrent avec bruit en échangeant force bourrade. Mais leurs femmes hésitaient à confier de l'argent à ces badauds malgré leurs promesses. Heureusement, l'épouse d'Éloi, une luronne grassouillette dont les yeux noirs brillaient comme des murs au soleil, n'attribuait la paresse de son mari qu'à l'influence des camarades. « Payons, dit-elle à ses compagnes, tous les frais du vin et du tonneau. » Nos hommes trouveront l'un par l'autre, dans leur association, plus d'intelligence et de courage. « Ma foi, on peut bien essayer, » répondirent les compagnes. « Ça ne coûtera jamais bien cher. » Et la bonne nouvelle de la vertu des quatre fainéants se propagea de porte en porte, tandis que l'ombre descendait, épaisse, de la montagne. Les jeunes filles, en revenant de la fontaine, se réjouissaient déjà des cadeaux que leur offrirait plus tard leur fiancé quand ils sauraient un métier. Seulement, dans les cuisines aux casseroles étincelantes, les citoyens de Ganges s'irritaient sombrement à la pensée que des traîtres allaient, par un sentiment de gloriole, rompre la tradition. Cependant que leurs épouses fredonnaient avec malice des chansons de délivrance, ils prévoyaient pour eux toutes sortes de misères. Ne verrait-on pas bientôt, par une monstrueuse interversion des rôles, les hommes devenir de simples domestiques ? Ah, si vous aviez vu, le surlendemain, les quatre associés de Ganges, coiffés d'un chapeau de paille à larges ailes, une ceinture rouge aux reins, rasés, lavés, reluisants comme des épis de maïs après l'orage. Ils semblaient plus jeunes et plus robustes. La carriole, chargée de sa demi-pièce, stationnait au milieu de la place où ruisselait la fontaine. Enfin, ils partirent, ils s'attelèrent ensemble, entourés d'un grand concours de peuple qui poussait des clameurs d'encouragement et d'espérance. L'on traversa le faubourg sans trop de peine, bien que des vieux avec mépris levassent leurs cannes sur le dos de ces révolutionnaires. Les refranchit sur le pont de pierre, dont l'eau pure sortant du causse éclaire l'arche escarpée, il fallut gravir la côte qui monte au plateau dans un vent de fournaise. Et, hardi, il tirait, poussait la carriole, soufflant à perdre haleine. Bientôt, ils grommelèrent. « Que nous sommes bêtes! Nos femmes nous flattent pour profiter de nos travaux. Enfin, plus tard, nous aurons de l'argent. » Aujourd'hui, ils n'avaient chacun que 5 francs dans la poche. Mais ce soir, au retour, que de piécettes blanches et peut-être des louis d'or. Au sommet de la côte, ils s'épongèrent longuement. Le plateau immense, à travers bois et mamelons, s'étendait jusqu'au pic Saint-Loup, dont la bonnette noire, au-dessus de Montpellier, s'érige dans l'azur. Il faisait peur avec sa solitude de pierres nues et brûlées. Quelle tentation de redescendre au vallon de Ganges, dans l'oasis des jardins et des prairies, où gazouillaient ensemble les eaux et les mûriers. Sous les fouets du soleil, ils poussèrent la carriole plus lourde qu'un roc. Bientôt, les maisons de Saint-Bosile apparurent à l'abri d'une butte. « Encore 2 kilomètres, mes enfants, notre vin doit bouillir. Si nous en buvions un peu pour nous refaire les jambes. » « Tu plaisantes, Pascal, comment nous attarder sur cette route aveuglante ?»« Ah, demain, après nos fatigues, la place de Ganges, avec sa boule, nous paraîtra meilleure. » Heureusement, il y avait à gauche, dans l'ombre grêle de quelques figuiers, une source que, par miracle, le soleil n'avait pas bu tout entière. Les camarades s'y mouillaient le front lorsque Pascal, ayant grimpé sur le talus pour attraper des figues, cria de surprise et de joie. « Oh, oh ! Voici un travailleur !» En effet, de l'autre côté de la route, au bord de sa vigne maigre, un homme dormait, la tête sur sa veste. C'était l'original de Saint-Bosile, Joachim, un balourd aux yeux finaux, à la face bourrue de barbe. Au cri de Pascal, il s'était réveillé. Et, bâillant encore, tandis qu'il dévalait le talus, il donna aux 4 exilés des conseils qui ne lui coûtaient rien. « Moi, d'abord, je ne reste pas dans mon pays le jour de la fête votive parce que je n'aime pas les tapages. Vous autres, si vous travaillez fréquemment par cette canicule, vous diminuerez vite, je vous en réponds. »« Diable !» bourdonnèrent les camarades, « ce vigneron n'a pas tort. Pourtant, nous aurions autant de chemin pour rentrer à Ganges que pour nous rendre à Saint-Bosile où nous attendent de gros bénéfices. »« Ah, civilisation impie !» Votre vin de la Sérane va griser mes compatriotes qui sont capables, dans leur ivresse, de casser leurs meubles. Moi, j'ai emporté toutes mes économies, de crainte qu'un joueur aux cartes affolé ne coure me les dérober. Restez donc auprès de moi, nous nous amuserons. Tais, fit Pascal, voilà une idée qui me vient. Chacun de nous a de l'argent, Joachim aussi. Pourquoi ne jouerions-nous pas notre vin au bouchon? On trouverait ses bénéfices sur la route. C'est vrai. Et pas besoin de nous fatiguer. Les 4 compères s'imaginaient dévaliser Joachim parce qu'il serait seul à se défendre. Celui-ci, de son côté, se frottait les mains avec plaisir, espérant berner ces badauds de la ville qui venaient, sans qu'il se dérangeât, lui apporter des jouissances. Donc, après avoir défoncé la barrique, on disposa au milieu de la route un caillou semblable à un bouchon sur lequel chacun des joueurs, à tour de rôle, jetait un écu de 5 francs en guise de palais. Quand c'était le tour de Joachim, les 4 compères essayaient, en lui parlant du vignoble, de détourner son attention. En vain d'ailleurs, le vigneron visait le but patiemment, et si bien qu'après 4 tournées, il n'avait pas perdu une fois. 4 litres chacun de ce vin de la Sérane qui brûle comme l'alcool dans la tête. N'en pouvant plus, ils s'assirent dans l'herbe du fossé, autour de la source, et tandis que le soir tombait, rafraîchi par la brise qui, au lointain du plateau, remuait des ombres, ils s'endormirent. À leur réveil, le ciel noir était parsemé d'étoiles. Des lumières brillaient là-bas, sous la butte, d'où s'égrenaient joyeusement, par le silence, les musiques du bal du village. Ils bredouillèrent en s'étirant. « Où diable sommes-nous? Nos femmes doivent avoir peur à la maison. » « Impossible de rentrer à Ganges, déclara Pascal. La tête me tourne. »« Allons, buvons, dit Joachim. Le tonneau se vidant à mesure, vous aurez moins de peine à le traîner. »« Si tu voulais, lui répondit Pascal, tu pousserais la carriole. En récompense de quoi, on te céderait la moitié des bénéfices. » Joachim, qui riait dans sa barbe, obéit. Il ébranla le chariot sur la route plus légère dans l'ombre de la nuit, et les quatre compères suivirent en se donnant le bras comme à la noce. Soudain, à un détour, on découvrit entièrement le village, tout vibrant de violons et de musettes, illuminé de lampions et de lanternes. Sur la place, les villageois assemblés épièrent avec stupéfaction ces messieurs de la ville qui leur apportaient du bon vin. Mais puisque pour boire il fallait payer, personne n'eut soif. Les quatre négociants, assis sur les brancards de chariot, se lamentaient déjà lorsque Joachim de nouveau vint les sauver. « Tais !» leur dit-il d'un air pitoyable, « je vous ferai manger dans ma cuisine. Venez, vous me paierez facilement sur le vin que nous remiserons dans l'étable. » Ce n'est pas de refus. Ensuite, proposa Pascal, nous irons au café jouer aux cartes notre argent. Les citadins de Ganges peuvent, sans trop d'efforts, gagner les paysans de Saint-Bosile-du-Putois. Après le repas, ils se retrouvèrent dispos et reluisants sur la place. Pour oublier leur chagrin, ils dansèrent, mêlés au couple du bal, qui jetaient parfois des cris d'allégresse. Mais le café les attendait. Là, dans un réduit sans air et presque sans lumière, parmi la fumée des pipes, ils virent grimacer des visages enfiévrés par le jeu et des mains calleuses se traîner sur le bois de la table, pareilles à des taupes qui grattent le sol. Ce soir-là, à Ganges, quelques femmes rôdaient assez avant dans la nuit, histoire de se distraire de leurs rêves de fortune. Pourtant, lorsque minuit sonna au clocher de l'église, il fallut se coucher. Au bout d'un quart d'heure, il n'y eut, dans la paix obscure de la ville, que la plainte des ruisseaux, le grondement de la rivière au long des filatures, dont les fenêtres s'imprégnaient des rayons de la lune. Les femmes, qui dans leur lit luttaient contre le sommeil, entendirent les chats miauler longuement sur les toitures et les platanes gémir comme des enfants. Elles songeaient aux quatre camarades partis pour Saint-Bosile, à ces braves hommes qu'on allait soigner avec tant de tendresse. Lorsque ceux-ci rentrèrent, les maisons semblaient, dans l'ombre, participer des rocs éboulés de la Serrane. Ils marchaient d'un pas machinal, bras à bras, le chapeau sur les yeux. Ils avaient honte, car le vin, le tonneau, la carriole, tout ce bien merveilleux n'existait plus. Ils l'avaient laissé entre les mains des rustres rapaces qu'ils accusaient de vol. « Je crois que tout notre monde dort, » dit Jean-Pierre le batailleur. « Ah, s'il pouvait ne se réveiller jamais !» soupira Pascal, qui se sentait le plus compromis à cause de ses inspirations maladroites tout le long de l'aventure. « Non, par exemple, » riposta Jean-Pierre, « nous sommes toujours les maîtres chez nous. »« Oui, tu vas voir ta femme. Est-ce que je ne suis plus un citoyen ? Elle n'est rien du tout. Ma foi, tu as raison. De l'audace !» À mesure qu'il respirait l'odeur familière de la cité, ils retrouvaient au fond d'eux-mêmes le sentiment de leur puissance. À l'éclaircie de la place, parmi les feuillages, ils levèrent la tête et les dalles des trottoirs retentirent bruyamment sous leurs pieds. « Tant pis, grogna Jean-Pierre, on ne nous engagera plus à recommencer. »« Le soleil a du bon, vu de loin, » dit Sylvain qui secouait ses épaules de colosse. « Mes amis, défendons-nous en racontant ce que vous savez. » Ils se séparèrent. Bientôt, à droite et à gauche, chacun cognait dur à la porte de son logis. Des volets s'ouvrirent partout en même temps dans les quatre quartiers et des têtes, mal coiffées de foulards et de bonnettes, apparurent. « Ouais, ce sont nos travailleurs !»« Mais oui, c'est nous, même que nous avons besoin de repos, pauvres !»« Et le tonneau ?»« Ah, mes amis, nous avons eu à lutter contre des sauvages. Nous ne savons même pas si nous arrivons entiers, nous autres !» La femme des lois avait ouvert sa fenêtre au-dessus de la porte. Son caraco faisait une tache blanche à cause de la lune qui, posée sur la Serrane, regardait ses rues d'habitude paisibles. « Eh bien, te voilà, tu n'as pas faim? Ouvre-moi! Et tes camarades? Ouvre, tu m'interrogeras ensuite. Ah, je suis si contente de ton retour. J'avais peur, sais-tu, seule dans ma maison. Peur de quoi ? Il n'y a pas de monstres à Ganges comme à Saint-Bosile. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Alors tu n'y retourneras plus dans ce village? Je crois que non, maugré Éloi, tandis que sa femme descendait en frémissant, ouvrir la porte papelonnée de clous. Une fois dans la cuisine, tous les deux, à la douce clarté de la lampe, quelle bataille! Éloi s'était assis sur une chaise basse et, la figure entre les mains, il geignait devant l'épouse déconcertée qui, les poings aux hanches, le considéra. « Pardonne, laisse! Ces habitants de Saint-Bauzide sont des bandits. Nous n'avons plus rien. Mais l'écu de 5 francs! Tu ne voulais pas me perdre. Il m'a fallu manger. Tu dois être malade? Non, j'ai sommeil. T'es, va-t'en, je te renie. Va chanter dans les grandes villes pour gagner ton pain. Tu m'as envoyé à Saint-Bauzile par une canicule d'enfer, j'ai passé une nuit de supplice et tu me chasses ?» Alors, à sa façon, Éloi conta la mésaventure. Au bal, les gens de Saint-Bauzile avaient cerné les 4 citadins, puis, après les avoir ligotés, les avaient dépouillés du vin et de l'argent. « Tu penses, conclut-il, c'était une fameuse aubaine que nous leur apportions, un tonneau de 100 litres. Toutes les fortunes de Ganges y passeraient si nous persistions dans un tel commerce. » « Et les gendarmes ? Ces paysans s'en moquent. Ils disent qu'à la prison de Montpellier, ils seraient nourris sans rien faire. Regarde, j'ai bien diminué d'un kilo à force de suer. C'est vrai, tu es rouge, tes mains tremblent. Oh, mon pauvre !» La brave épouse se jeta dans les bras de son homme et ils pleurèrent ensemble de la douleur d'avoir perdu de l'argent et du plaisir de se réconcilier. Après tant d'effusions, la maison des lois, ainsi que tout le voisinage, rentra dans son calme ordinaire. Seulement, on dormit mal. La plupart des gangeois se levèrent bien avant l'aube. Aube adorable, en dentelles bleues et blanches, qui se déchiraient aux rochers gris de la montagne. À l'heure accoutumée, les citoyens se rassemblèrent sous les platanes, en fumant la pipe, les mains aux poches. Les 4 associés de la veille arrivèrent les derniers, confus, la tête basse. On les plaisanta. « Ouais, on dirait que vous semblez plus robuste. Est-ce que vous allez reprendre le tonneau à Saint-Bauzile ? Nos femmes ne veulent pas. Amenez-les avec vous autres. Mais non, ces paysans, vous les garderez aussi, peut-être. En attendant, nous allons nous ennuyer à Ganges aujourd'hui. » Tous les citoyens se turent, ne sachant plus que dire dans leurs courtes pensées, heureux comme les plantes de se chauffer au soleil du matin. Dans le recueillement des choses, où s'élevait le cri-cri rapide des métiers, ils souriaient à la vue de l'eau de la fontaine qui court, depuis des siècles, faire pousser de l'herbe au pied des maisons. Soudain, quelle stupeur ! Joachim osait se présenter au cœur de la ville et il traînait sa carriole chargée de son tonneau. Malédiction ! Quel mauvais exemple ! Un homme, au lieu d'un âne, traînant un chariot ? « Veux-tu t'esquiver bien vite ?» lui crièrent en cœur les 4 compères. « Tu viens encore nous voler ?»« Pas du tout, mes compatriotes déclarent délicieux votre vin de la Serranne. Voulez-vous m'en vendre ? J'ai de l'argent. » Il frappa sur son gousset garni de piécettes blanches. Les citoyens, en éclatant de rire, le regardèrent. Cet argent les tentait. Ils tinrent conseil. Cependant que de rue en rue s'insinua, comme la bise de décembre, la nouvelle qu'un vigneron de Saint-Bauzile fomentait la débauche sur la place. Alors toutes les femmes, dans un élan de sorcière furieuse, coururent vers Joachim, qui, surprise entre ses brancards, ruait comme une bête. « Va-t'en, brigand ! » criait-elle. « Nous perdrions nos hommes corps et âme s'ils faisaient jamais fortune. Tu ne sais pas que, dans leur paresse, ils sont les vrais esclaves ?» Eux qui se croient nos maîtres. Ne parle plus de les faire travailler. Ils ne savent pas, les pauvres. Et nous voulons qu'ils gardent la boule sur la place de Ganges. » Joachim se sauva vers la route où flambait le soleil, tandis qu'à l'ombre des platanes, les citoyens de Ganges adoraient, sur sa colonne de pierre, la boule dorée, qui est encore la providence léguée par les ancêtres aux montagnards de la robuste Cévenne.